profiter jusqu'à 10h30 de la laïcité et des religions.
Le temps qui change. Aujourd'hui,
l'enseignement de l'histoire des religions, de la culture religieuse, peut-il sauver la laïcité ? Par Pascal de Cugnac. Bonjour, le temps qui change aborde ce matin un débat contemporain qui a fait l'objet d'un colloque il y a une semaine tout juste à l'école du Louvre. Le colloque Forme et Sens, organisé en collaboration avec le journal La Croix et France Culture. Nous accueillons ce matin un certain nombre de ces intervenants dans ce studio et quelques autres autour d'un constat que nous allons peut-être vérifier dans un instant, la carence de culture religieuse handicape les jeunes générations dans la lecture et l'assimilation de notre société. Faut-il donc aujourd'hui réintroduire l'enseignement de la culture religieuse à l'école pour combler ce manque ? Et comment faut-il le faire dans le cadre de la laïcité ? J'accueille autour de ces micros 6 invités. Monsieur Dominique Ponneau, qui est président de la commission pour la sauvegarde du patrimoine culturel, directeur de l'école du Louvre. Monsieur Philippe Joutard, recteur de l'académie de Toulouse et rapporteur en 1989 de la mission de réflexion sur l'enseignement de l'histoire, la géographie et les sciences sociales. Madame Danielle Hervieux-Léger, directeur d'études à l'école des hautes études des sciences sociales, sociologue. Monseigneur Hippolyte Simon, qui est le tout nouvel évêque de Clermont-Ferrand. Monsieur Mohamed Harkoun, professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à Paris 3. Et enfin, monsieur Claude Nicolet, professeur d'histoire à la Sorbonne, membre de l'Institut et aujourd'hui chargé de mission sur l'éducation civique. Alors nous allons faire tout de suite ce constat. Est-ce que je peux vous demander, vous qui êtes là, trois jeunes personnes devant ce tableau de vous et qui représente la présentation de Jésus au temple, ce que vous voyez dans ce tableau, même plus précisément, est-ce que vous-même, vous savez, vous pouvez me raconter ce qu'est l'histoire de cette présentation au temple ?
C'est la présentation de la Vierge au temple, pas de Jésus. Non ? Jésus ?
Ben oui, Jésus, mon enfant Jésus. Hein. Ben en fait, c'est la Vierge Marie qui vient présenter l'enfant Jésus au docteur, non ? C'est ça, oui.
Simon ?
Vous êtes étudiante à l'école du Louvre. Est-ce que pour vous, il est indispensable, nécessaire, important, précisément, de connaître cette histoire pour entrer dans le tableau ?
Oui, mais hélas, c'est ce qui ne nous enseigne pas vraiment dans les études, mais oui, effectivement, il faut connaître le thème, l'histoire, pour pouvoir étudier pourquoi tel personnage se trouve là, la disposition, il faut connaître, oui, effectivement.
Et par exemple, sur ces personnages que vous voyez, donc vous qui étudiez ce tableau, est-ce que vous avez réussi à les situer, à les nommer ?
Oui, parce qu'on a effectivement une habitude à chaque fois de voir les mêmes personnages. Enfin, y a, c'est codifié quand même. La Vierge est toujours représentée avec son voile bleu. Enfin, on reconnaît effectivement parce qu'on a une habitude de lecture des tableaux. Mm-hmm. Mais oui, et puis quand on connaît un petit peu l'histoire, mais ça dépend des tableaux, effectivement. Enfin, là, c'est très clair. Là, on reconnaît bien quand même. Chaque personnage est vraiment identifiable.
Est-ce qu'il vous semble que lorsque vous étiez à l'école, avant même l'école du Louvre, on vous a suffisamment enseigné, parlé, raconté ce qu'était l'histoire religieuse, en l'occurrence là, l'histoire des chrétiens ?
Ben moi oui, parce que j'étais en école privée, donc j'ai eu une éducation religieuse.
Moi non. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre par soi-même si on veut s'intéresser, mais sinon...
Est-ce qu'il vous semble que c'est un handicap aujourd'hui pour vous, lorsque vous vous trouvez devant un tableau de nature religieuse?
Non, parce qu'on rattrape par soi-même, en étudiant par soi-même, c'est pas nécessaire, parce que on n'a pas des tableaux de peinture religieuse non plus, on a par exemple des tableaux pour l'archéologie, bah, quelque chose qu'on ne nous apprendra pas forcément non plus à l'école en général, donc il n'y a pas des tableaux religieux non plus.
Mais en fait, il nous demande de faire ça par nous-mêmes, mais moi qui ai pourtant eu du catéchisme, j'ai quand même beaucoup oublié, j'ai été obligée de tout reprendre par nous-mêmes dans les conférences ou par les lectures, même j'étais obligée de reprendre la Bible.
C'était il y a quelques jours à peine dans une des salles du Louvre, un exemple pris au hasard et sur le vif. Ces jeunes étudiantes ont non seulement la vertu d'appartenir à l'école du Louvre, mais aussi ici pour notre débat, de représenter leur génération, une jeunesse donc que l'on dit déficitaire dans son bagage religieux. Alors pour commencer cet échange, je voudrais vous demander à vous tous si d'abord vous vous accordez sur ce constat et comment vous le vérifiez là où vous êtes, cette amnésie religieuse, Monsieur Joutard.
je crois qu'elle ne date pas de maintenant. Quand je me rappelle, il y a quelques années, au Cagneux, j'avais eu l'audace de poser à l'écrit un sujet sur l'islam. Ça avait été une véritable catastrophe. Et surtout, là, des faits. Il y avait surtout une confusion complète entre, par exemple, l'islam et le judaïsme. Et puis, encore plus récemment, des professeurs, je dis bien des professeurs d'histoire, voyant une circoncision de Jésus, découvrir avec surprise que Jésus était juif. Voilà deux exemples, et non pas pris, de gens moyens, mais déjà de gens qui ont en principe reçu une certaine culture, sont en déficit fort. Alors, je voudrais insister, comme d'ailleurs l'ont dit très justement ces jeunes filles, c'est que le déficit n'est pas simplement d'ailleurs en matière de références religieuses, mais je parle sous le contrôle de Claude Nicolet, je pense que les références en matière, par exemple, gréco-romaine, sont tout aussi absentes, et il y a un déficit du même genre. C'est un peu un soubassement, entre guillemets, de ce qu'on appelle les référents humanisme, qui sont en disparition, c'est un fait.
Dominique Pono.
Entièrement d'accord avec ce que vient de dire Philippe Joutard, et fort intéressé, en tant que directeur de l'école du Louvre, par l'hésitation de ces jeunes filles. Je dois dire que, en ce qui concerne la présentation de Jésus au Temple, elles ne sont pas sans excuses. Parce que c'est un thème très délicat, au fond. Et je parle sous le contrôle de Monseigneur Simon, mais naguère, la présentation de Jésus au Temple s'appelait la purification de la Vierge. En revanche, il y a de nombreux tableaux où l'on voit la présentation de la Vierge au Temple. C'est la fête, c'est celle du 21 novembre. Et quant à la circoncision de Jésus, c'est encore une autre fête qui était dans le calendrier d'avant le Concile explicitement indiquée comme la circoncision et qui maintenant, autant que je sache, n'est plus présentée comme telle dans le calendrier liturgique. Alors, si je me trompe.
Non, je crois qu'elle a disparu au bénéfice du baptême du Christ.
Voilà, au bénéfice du baptême du Christ. Ce qui, je dois dire, à travers tous ces thèmes, oui, quand on pense à la multiplicité des changements qui se sont produits dans les appellations, au sein de, c'est pas une critique, au sein du calendrier liturgique catholique, par rapport à toute l'histoire de l'art que ces jeunes gens ont pu apprendre, je les comprends, surtout dans un cas comme celui-là, d'être un peu hésitante.
Non, c'est d'autant plus difficile donc pour les jeunes de s'y retrouver.
Oui, mais j'ajouterais d'un mot que il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il y a 13-14 ans, en tant que directeur de l'école du Louvre, j'ai souhaité instituer à l'école du Louvre un cours d'iconographie gréco-romaine et biblique et chrétienne, considérant que la perte de la mémoire était très fondamentale dans les deux domaines. Je dois dire aussi, sans esprit de critique, que je n'ai pas pu faire ce que j'aurais souhaité faire à l'époque, c'est-à-dire rendre cet enseignement obligatoire pour tous les élèves. J'ai dû me réduire à en faire un enseignement de spécialité. Et maintenant, à la différence de ce que j'ai cru comprendre que pensaient ces jeunes filles, il y a un grand nombre d'élèves de l'école du Louvre et de professeurs de l'école du Louvre qui, au départ, étaient plutôt contre cette idée de cours d'iconographie gréco-romaine et, disons, judéo-chrétienne, biblique et chrétienne, qui maintenant voudraient que ce soit donné à tout le monde parce que la conscience du gouffre d'ignorance a été prise depuis.
Ces élèves sont sans doute en début de parcours à l'école du Louvre. Monseigneur Simon, avec les jeunes que vous croisez, comment est-ce que vous remarquez, vous aussi, ce déficit ?
Oui, il y aura beaucoup d'anecdotes, mais je dirais comme mon voisin, le recteur Joutard, que ce n'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens d'avoir été étudiant il y a 25 ans à Paris 1, à Sancier, et j'avais pris en mineur des valeurs d'histoire. Et j'avais travaillé sur la réforme, Luther, et je dois dire qu'un certain nombre d'étudiants de 1971, quand ils étaient affrontés au problème de la justification par la foi ou par les œuvres, avaient quelques problèmes pour s'y retrouver. Donc vous voyez, c'est une génération qui n'est pas... Enfin, c'est une expérience qui n'est pas nouvelle. Mais moi, j'ai travaillé surtout avec des adultes dans mon ministère antérieur. Donc, avec les jeunes, moi, je m'en remets à ce que me disent mes amis qui sont enseignants dans le secondaire et qui déplorent aussi cette ignorance pour analyser n'importe quel texte.
C'est un phénomène qui s'étend au-delà, je dirais, de la dernière génération ou de ce qu'on appelle les jeunes aujourd'hui, M. Harcon.
Écoutez, moi, dans mon expérience, évidemment, l'ignorance est tout à fait considérable, puisque dans matière d'islam, même un public que nous considérons comme cultivé, de collègues par exemple, d'universitaires, quand il s'agit de l'islam, il y a des ignorances confessées d'ailleurs, qui font qu'il est extrêmement difficile de faire un exposé, même très simple, une conférence, quelque part en France, parce qu'on se heurte à une inculture totale, non seulement en ce qui concerne la religion comme telle, mais en ce qui concerne l'histoire. L'histoire du monde méditerranéen, où l'islam est évidemment présent, eh bien là, il y a une carence extrêmement grave, puisque l'histoire est censée être enseignée tout de même en France, dans les universités aussi bien que dans les lycées. Et le côté islamique de la Méditerranée est toujours laissé à quelques spécialistes que l'on appelle des orientalistes, et donc n'atteint presque pas le grand public français. Mmh. Donc l'ignorance dépasse la religion proprement dite. Là, on a parlé d'une ignorance de quelque chose qui est spécifiquement religieux, comme le tableau qui a été montré à ses étudiants, mais là, il s'agit d'histoire. Mmh. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus grave. Et histoire de la pensée aussi, histoire de la philosophie. C'est là qu'il y a de très très graves ignorances. Surtout dans les conditions actuelles de la société française, où cette religion est venue s'ajouter au christianisme sous ses formes protestantes et catholiques qui ont existé jusqu'à présent. Et voici que maintenant, la France doit gérer aussi cette religion qui n'est pas si nouvelle que ça. Je citerai d'ailleurs tout à l'heure un exemple qui illustre, à mon avis, la manière dont la République aborde ce problème. La République, je dis bien. Mmh. Il s'agit de Clovis et de Marcellon et de ce que Marcellon dit, etc.
Alors, nous allons y venir.
Je le réserve pour tout à l'heure.
Claude Nicolet, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes l'un des plus anciens autour de cette table. Est-ce que vous voyez, l'un des plus anciens d'entre nous, est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui entre la jeunesse de maintenant et celle
D'abord que toute ignorance est blâmable, et je dirais qu'elle est anti-républicaine, et que donc toute ignorance doit être vigoureusement combattue. Mais je vais vous raconter une anecdote aussi. Il se trouve que l'Institut de France recevait en visite d'État le roi Norodom Sihanouk, qui a tenu à visiter l'Institut, qui tenait ainsi à remercier indirectement certaines académies, dont la mienne, qui ont pris une part importante et qui continuent à prendre une part importante à l'aide au Cambodge, et en particulier pour la restauration du patrimoine culturel et pour tout dire d'encore. Et donc on avait une petite exposition à la bibliothèque de l'Institut sur on possède pas mal de documents, des relevés du 19e siècle sur encore. Bien, vous savez, parmi mes confrères de l'Institut, qui théoriquement ne devraient pas briller par l'ignorance, eh bien certains se demandaient avec angoisse les rapports entre le brahmanisme et le bouddhisme, et si ce roi était bouddhique ou brahmaniste, etc. C'était très vague dans l'esprit de beaucoup. Alors pourquoi limiter notre ignorance religieuse aux religions dites du livre, même avec une allusion polie à nos racines, entre guillemets, moi je ne suis pas une plante, je n'ai pas de racines, païennes, gréco-romaines. Bon, il y a un phénomène général d'ignorance, et dans cette ignorance, notre problème est d'apprécier exactement ce que doit représenter dans l'ignorance et dans son contraire, c'est-à-dire l'accès à la compréhension des choses, les phénomènes religieux, qu'ils soient les nôtres directement, ou après tout ceux de l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je suis naturellement à la fois scandalisé et amusé par les bégaiements informes de ces étudiantes ou de ces membres de l'Institut qui ignorent ceci ou cela. Mais ça, c'est le scandale que je ressens, y compris vis-à-vis de moi-même, chaque fois que je me trouve devant un phénomène d'ignorance.
Daniel Hervé-Léger, vous êtes d'accord vous aussi sur ce constat ?
Oui, je pense qu'il faudrait probablement prendre quelques précautions. Je suis bien entendu d'accord avec le constat général selon lequel il y a un déficit de culture religieuse aujourd'hui. C'est un constat facile à faire et chacun peut multiplier les anecdotes. Je ne suis pas sûre, si on avait présenté à l'arrière-grand-mère de ces étudiantes le même tableau dans les années 20, que les réponses auraient été forcément plus sûres. Bon, ça, c'est un point de vue qui ne minimise en rien le scandale que j'éprouve moi aussi.
Mais il y a une aggravation aujourd'hui.
Je pense que oui, mais elle se joue sur deux terrains à la fois. Et deux terrains qui sont... qu'on a tendance à mêler. Il y a d'abord le fait qu'il y a un déficit de connaissances qui nous apparaît d'autant plus bizarre et d'autant plus difficile à supporter que par ailleurs les mêmes jeunes sont bombardés d'informations. Et parmi des étudiants, parmi mes étudiants, qui sont des étudiants de troisième cycle, qui viennent faire des diplômes d'études approfondies ou des thèses, et des thèses en sociologie des religions, et dont on peut penser qu'ils ont un intérêt particulier pour ce genre de choses, je constate ce phénomène. Un défaut de connaissance qui contraste avec le fait que par ailleurs, à travers les médias, etc., ils sont bombardés d'informations atomisées, pas ressaisies les unes par rapport aux autres, et dans un grand désordre. Puis il y a un deuxième niveau de problème, qui est lié, lui, alors, à quelque chose qui, effectivement, est un fait nouveau, qui est l'effritement ou l'affaissement de la socialisation religieuse primaire, c'est-à-dire de l'initiation croyante dans telle ou telle tradition, qui fait que, non seulement, il y a un problème de connaissance, mais que par-dessus le marché, les soubassements expérientiels, disons, de l'intérêt religieux, n'ont jamais été travaillés quelque part. Autrement dit, il y a une sorte d'absence de sensibilité à ce genre de questions, qui contraste pourtant très fortement avec un énorme appétit de sens et une énorme envie de découvrir des manières dont les sociétés, à travers le temps et l'espace, ont donné une signification à leur existence. Donc, si vous voulez, une double contradiction, bombardement d'informations, déficit de connaissances, et absence de socialisation religieuse, et en même temps, énorme désir de mettre du sens dans son existence en prélevant un peu partout des significations disponibles. Ça donne une curieuse mayonnaise. Et en ce qui concerne, par exemple, mes étudiants, dont je parlais tout à l'heure, mon problème est au moins autant le problème de leur connaissance, ça je peux, en me donnant un peu de mal, essayer de combler ce trou, mais par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est comment faire en sorte d'éveiller, je dirais, comme disait Max Weber, une oreille musicale. Simplement pour pouvoir essayer de comprendre le type d'expérience qui se jouait là, indépendamment de tout engagement croyant, simplement comme sensibilité aux enjeux vivants que représentait pour des sociétés et des individus ce type d'engagement religieux.
Alors, nous allons demander un petit peu plus loin comment justement éveiller cette oreille, comme vous dites, mais pour vous aujourd'hui, quelles sont les causes majeures de ce décalage? Comment s'est installé et depuis quand ce décalage?
Je crois qu'il faudrait, Philippe, insister sur ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas tellement les éléments factuels qui me paraissent les plus graves, l'élément du sens. Et de ce point de vue, je reprendrai quand même une remarque très importante de Mohamed Harkoun tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un sens historique. C'est parce que le grand problème, c'est comment avoir une expérience si on n'est pas adhérent ou fidèle. Or, précisément, la démarche historique, qui est une démarche de distance, mais aussi de sympathie, permettrait éventuellement d'avoir ce sens. Or, on peut avoir des connaissances, mais malheureusement des connaissances privées de sens.
Mohamed Harkoun.
Effectivement, je crois que c'est la façon même scientifique d'aborder le fait religieux qui manque, qui nous manque, disons, puisque nous parlons ici, nous sommes presque tous des universitaires, la façon dont nous étudions les religions est intellectuellement, épistémologiquement déficitaire. Je prends un exemple. Je veux parler à mes étudiants du concept de révélation. Qu'est-ce que la révélation? Il y a deux manières de le faire. Il y a la manière purement descriptive, en disant les musulmans définissent la révélation comme ça, les juifs comme ça, les chrétiens comme ça, etc. Puis il y a une approche comparée de la révélation comme fait culturel et comme fait de pensée, lié à une expression linguistique, qui est le discours religieux. Là, nous déplaçons complètement le concept de révélation. Et nous l'analysons d'une manière qui, jusqu'à présent, je peux en témoigner, et je pense que ma voisine Danielle Hervieux-Léger le sait, n'est pas faite du tout. Du fait précisément de l'ignorance dans laquelle on tient une des religions révélées. Lorsqu'on parle de révélation, on vous en parlera, on analysera dans le domaine chrétien, protestant, catholique, éventuellement orthodoxe, mais on n'ira pas s'aventurer du côté de l'islam. Or, nous avons là un soubassement culturel, une réalité historique, un fond linguistique qui est le discours prophétique, tel qu'il fonctionne dans la Bible, dans les évangiles et dans le Coran. Cette approche-là est intellectuellement absente.
Alors, nous en sommes déjà là au remède. Moi, je voudrais qu'on reste un peu pour l'instant sur le constat. Je posais la question des causes.
On peut avancer si on le...
Des causes et des conséquences. D'où vient cette maladie? Comment l'appeler? Monseigneur Simon.
Je pense que nous sommes arrivés après un phénomène majeur qui est la rupture de tradition des années 60. Moi, je crois que, enfin, j'appelle ça dans ma langue antérieure. Quand j'étais en Normandie, nous connaissons le phénomène du mascaret. C'est-à-dire que quand il y a la grande marée dans la baie du Mont-Saint-Michel, tout d'un coup, la rivière part à l'envers. Et quelqu'un qui assisterait à ce phénomène dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, l'eau remonte. Et je crois qu'il s'est passé dans les années 60 quelque chose d'équivalent, pas simplement au plan religieux, à tous les plans, au plan professionnel, au plan moral, etc. Je dirais, à ce moment-là, le passé a été disqualifié comme référence pour préparer l'avenir.
Oui, tout à fait.
Et ça s'explique, c'est un phénomène qui dépasse tout le monde. Et là, il ne faudrait pas essayer de chercher des coupables ou des boucs émissaires, puisque c'est un phénomène de civilisation dont il faut simplement prendre la mesure et puis travailler ensuite à recoudre la mémoire. Je veux dire par là que, dans leur majorité, tout d'un coup, les petits Français ont fait plus d'études que leurs parents, à cause de la réforme scolaire, qui était une bonne chose. Mais ce sont les effets induits par cette réforme-là, et lorsque, dans leur majorité, les petits Français font plus d'études que leurs parents, l'expérience des parents se trouve disqualifiée. Mm-hmm.
Dominique Bonneau. Je reviens un peu en arrière, mais j'étais extrêmement sensible à l'expression de Daniel Hervieux-Léger, oreille musicale. Et tout de suite m'est venu à la mémoire un des plus beaux vers de notre langue, je crois, qui est un vers d'Athalie. C'est Athalie qui parle. Par moi, Jérusalem goûte un calme profond. C'est un vers superbe. Mais il est d'autant plus beau que l'oreille entend dans ce vers que la personne qui dit cela est une reine sacrilège et qui s'arroge la place de l'Éternel pour dire cela. Et d'ailleurs, il va lui arriver malheur dans très peu de temps, parce que l'Éternel ne va pas la laisser dire longtemps que par elle, Jérusalem goûte un calme profond. Mais si vous n'avez pas cet arrière-plan de connaissance, vraiment respirer, et là je pense que nos arrière-grand-mères leur respiraient bien davantage que nous. Si vous n'avez pas cet arrière-plan de connaissance respirer, votre oreille musicale entendra la beauté de ce vers, sûrement. Par moi, Jérusalem goûte un calme profond, mais n'apercevra pas les harmoniques qui sont d'ordre spirituel et qui sont de l'ordre, justement, d'une culture respirée. Daniel Hervieux-Léger.
Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Mgr Simon à propos de cette rupture de la fin des années 60. On a longtemps pensé, au fond, que ce qui expliquait le reflux de la présence du religieux dans les sociétés modernes, c'était la rationalité scientifique et technique, c'était l'évidence d'un monde maîtrisé et désenchanté par les connaissances scientifiques. En fait, on s'aperçoit que l'avancée de la technique et de la science n'a pas du tout empêché la prolifération des croyances et des croyances les plus irrationnelles, entre guillemets. Donc il est clair que le problème n'est pas là. Par contre, je pense que cette rupture des années 60, elle est au fond le moment où s'affirme d'une façon extraordinairement forte cette caractéristique fondatrice de la modernité, qui est le primat accordé au sujet individuel, à son autonomie, et à la manière dont il pense le monde à partir de cette autonomie. C'est une formidable libération, il ne faut pas se le cacher. C'est un énorme pas du point de vue du progrès, de la culture et de l'humanité, sans aucun doute, mais c'est ça aussi des conséquences très importantes, qui sont précisément que la centration se fait sur l'individu comme capable de maîtriser le monde qui l'entoure, et que le problème au fond de son environnement, de la manière dont il est pris dans un donné, dans une réalité qui le dépasse, etc., s'est trouvé très largement affaissé par ce développement d'une culture de l'individu. Le problème est que, au fond, la conception moderne de l'autonomie du sujet, qui devient le centre, s'est progressivement transformé en une sorte d'affirmation de l'individualisme comme droit de chacun de se fabriquer son propre univers. Tout ceci a comme conséquence aussi d'avoir en quelque sorte invalidé les grandes cosmologies à travers lesquelles les hommes donnaient un sens à leur existence. Et ceci est d'une très grande importance, car il est probable que le renforcement individualiste extrême de cette culture se fait justement dans ce tournant des années 60, et qu'on voit là très bien une sorte de glissement culturel qui va modifier au fond le rapport au monde. Bien des choses que nous vivons aujourd'hui, y compris par exemple les problèmes que nous nous posons aujourd'hui dans notre rapport au vivant, ou avec l'affaire des vaches folles par exemple, repose le problème de cette situation au fond d'un univers entièrement conçu comme maîtrisable à partir de l'individu, qui je crois fait obstacle jusqu'à un certain point à la découverte de ces univers culturels à l'intérieur duquel le sens était donné.
Mais dans ce glissement, est-ce que la laïcité a pour vous une responsabilité, Philippe Joutard?
Non, je ne pense pas, parce que de ce point de vue-là, dans les programmes, laïque ou pas laïque, existait très fortement la notion de l'histoire de la France, dans laquelle à plusieurs reprises on trouvait des allusions très précises aux phénomènes religieux. Et puis dans le second degré, c'est extrêmement clair que les programmes laissaient cette place. En revanche, et là je rejoins tout à fait ce que disait Mgr Simon, en revanche, qu'est-ce qu'on remarque dans les années 60? C'est précisément l'évacuation des périodes plus anciennes de l'histoire considérées comme inutiles. On ne fait plus que de l'histoire contemporaine. D'autre part, c'est l'époque où les autoroutes arrivent au plein cœur des villes, avec l'idée comme s'il fallait vraiment effacer, y compris au cœur des vieilles villes, tout le passé. C'est l'idée un peu naïve que pour la modernité, il faut oublier tout ce qui était avant.
Le temps qui change, nous parlons ce matin sur France Culture de la disparition de la culture religieuse chez les jeunes et les moins jeunes. Une disparition que vérifie tous les jours auprès de ses étudiants, Madame Anne-Marie Pelletier, professeure de lettres à l'université de Paris 10 Nanterre.
C'est tout simplement des réactions d'étudiants face à des textes classiques de la littérature qui comportent des allusions forcément abondantes aux textes de la tradition biblique et qui laissent totalement démunis bien souvent les étudiants. Je pense à cette étudiante préparant un grand concours national, en l'occurrence l'agrégation, et qui nous vend un texte de Rimbaud en allusion au déluge, se trouvait tout à fait incapable d'élucider le mot, et protestait d'ailleurs que la question était indiscrète dans le cadre d'une institution laïque. Je crois que chaque enseignant a de nombreuses histoires de ce type en mémoire. C'est par exemple cette collègue de langue ancienne qui faisait lire un texte, un extrait des Actes des Apôtres à des étudiants de licence, où il était évidemment question du temple de Jérusalem, et elle s'est attirée cette remarque d'un étudiant avant la main pour s'étonner qu'il existait déjà des protestants à l'époque, puisqu'il était question du temple. Donc voilà, nous évoluons dans ce grand flux culturel qui fait qu'un certain nombre de textes de la littérature deviennent totalement opaques et inaccessibles à bon nombre d'étudiants.
Vous avez vu s'accroître au cours des années cette amnésie des jeunes?
Probablement est-ce un phénomène qui s'accentue, je dirais de façon plus positive, pour ne pas insister simplement sur l'amnésie, que ce qui me paraît le plus sensible dans l'expérience récente, c'est plutôt le fait que sur fond de cette perte de mémoire se manifeste une curiosité grandissante. C'est-à-dire que de fait aujourd'hui, dès que l'on se met à évoquer des sujets religieux, dès que l'on pointe dans des textes des enjeux religieux, il y a de plus en plus actuellement la manifestation d'un intérêt, d'une curiosité, le désir d'en savoir un petit peu quelque chose.
La curiosité des étudiants d'Anne-Marie Pelletier, c'est sans doute celle de toute une génération envers son identité religieuse, ou plutôt même celle de la France. Alors on va se poser cette question, maintenant je vais vous la poser, puisqu'avant de transmettre une identité, il faut déjà la connaître. Quelle est, si elle existe, cette identité religieuse de la France, Claude Nicolet?
Alors écoutez, je vous ai laissé poliment vous lamenter sur la perte du sens, le fait que vos ouailles ne connaissent plus leur béaba. Je dirais que c'est votre faute après tout. Il y a des religions établies, si elles ont perdu l'oreille de nos contemporains, accusez-en les médias capitalistes, à tout le monde. Mais là, je voudrais maintenant protester contre votre expression. Là, qu'avez-vous dit, le sens religieux de la France?
Non, l'identité.
L'identité religieuse de la France. Alors, il y a deux choses, encore une fois. Je crois que nous confondons deux discours. Il y a deux ordres de fait. Tout ce qui concerne la connaissance, tout ce qui concerne l'analyse que tout homme raisonnable et indépendant doit être en état de faire, et nous devons le mettre en état de le faire, est bon à prendre. Et naturellement, je ne vais pas nier que dans sa longue histoire nationale, la France a eu des périodes dans lesquelles elle était comme le reste du monde modelé par les réalités religieuses, comme le monde païen romain, comme les autres pays d'Europe. C'est un fait. Mais la France, ce n'est pas seulement cela. Nous considérons, je veux dire, nous, c'est pas mon choix personnel, nous vivons sous une loi, nous vivons sous une espèce de charte consensuelle, il y a un droit dans notre état de droit, un droit public des Français, dans lequel depuis maintenant deux siècles, on a décidé que cette dimension ne serait pas prise en compte, sauf historiquement, pour nous mener jusqu'à un certain point, mais pas au-delà, ne serait plus prise en compte dans notre appréciation collective, commune à nous tous, croyants ou non-croyants, que vous oubliez un petit peu, tous ceux qui ne veulent pas croire, ça doit être commun à nous tous dans notre appréciation de ce qu'est la France. Donc, je suis désolé de vous dire que la France peut être religieuse éventuellement dans son histoire, elle peut l'être encore dans sa sociologie, dans ses composantes, et c'est la liberté absolue de toutes les familles, de toutes les composantes d'y travailler, de se reconnaître, de se chercher. Elle ne doit pas l'être dans son expression politique et juridique collective. C'est ça, simplement, qu'on appelle la laïcité. Jusqu'à nouvel ordre, c'est inscrit dans aux premières lignes de nos constitutions et de tout notre droit induit par les constitutions depuis deux siècles. Enfin, on pourrait dire depuis que c'est inscrit dans les constitutions, au moins plus d'un siècle. Alors, ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est que la laïcité, il y a plusieurs définitions de la laïcité, il faudra trouver plusieurs mots. La vraie laïcité n'est en rien une attitude opposée aux religions en tant que religion. Elle est en revanche opposée à certaines prétentions historiques ou pas historiques des religions. Mais ça, c'est autre chose. Et j'anticipe peut-être sur la troisième partie.
Oui.
Alors, l'identité religieuse de la France, oui, si vous faites un cours sur qu'est-ce que la France, d'où vient-elle, comment s'est-elle faite, etc. Non, si nous parlons de la France comme entité de droit public.
Alors si nous faisons justement un peu ce cours, quels ont été les apports des différentes grandes religions, des différentes religions dans cette culture, dans cette identité religieuse de la France? Est-ce que j'interroge les religieux d'abord ou en dernier? Plutôt en dernier, j'ai envie. Dominique Bonneau.
Là encore, je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Il me semble que dans le domaine auquel je m'intéresse plus particulièrement, qui est le domaine de ce que j'appelle, à défaut de trouver une expression meilleure sans doute, la pensée sensible, c'est-à-dire l'approche artistique, voyez-vous. C'est ce que j'essayais de faire quand j'évoquais le vers de Racine, tiré d'Attali. Mais je trouve la même chose quand il s'agit d'une œuvre d'art qui ne se réfère pas forcément au domaine religieux, en l'occurrence chrétien. Je pense à une œuvre d'art qui fait vraiment partie du patrimoine français, en l'occurrence, qui est le fameux Et in Arcadia Ego de Poussin. Juste pour dire, pas savoir exactement, je ne veux pas discuter du sens exact de l'expression Et in Arcadia Ego, on en débat, mais juste dire ceci, qu'il s'agit de l'Arcadie, au milieu il y a un tombeau, et il se trouve que l'homme qui est en train de déchiffrer l'inscription, qui reste problématique pour la plupart d'entre nous, le sens de cette inscription, je veux dire, eh bien, dessine en même temps ce nombre. Et ce berger d'Arcadie, en pleine force de l'âge, est en train de montrer sa propre ombre sur le tombeau qu'il ne peut essayer de déchiffrer que parce qu'il est un vivant. Eh bien, c'est l'ombre d'un mort futur. Pour moi, ce tableau-là fait partie de, je dirais, de l'âme française, très fortement. Et j'ajouterais juste, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Nicolet, au sujet du Cambodge, que quand vous êtes au musée Guimet, et que vous vous trouvez en présence d'une image du roi lépreux, Jaranaman VII, qui est une des grandes figures de l'histoire du Cambodge, et qui artistiquement a donné lieu à des plus grands chefs-d'œuvre de l'art.
Plus un livre de la littérature française, un titre de la littérature française aussi.
Bien sûr, bien sûr. Là aussi, vous vous trouvez dans le domaine de l'identité spirituelle.
Bien l'identité religieuse, ce n'est pas uniquement l'apport des religions.
Je crois qu'il faut quand même
être
la raison de la réaction très, très forte et très saine de Claude Nicolet. Le mot identité est très ambigu.
Oui. Hein.
Et je crois qu'il faut réfléchir, on l'a abusé, y compris des interprétations politiques. Et parce que ça donne le sentiment d'un monde clos.
Alors qu'est-ce que vous diriez à la place d'identité?
Ben, je préférerais une étude sur les problèmes d'héritage, par exemple, qui est relativement plus neutre, voyez. Le mot identité n'est pas neutre, le mot d'héritage, et là on s'apercevrait de la vérité de l'héritage sans bien entendu nier, il n'y a absolument pas question de nier la force par exemple de l'héritage catholique, mais aussi des réactions contre l'héritage catholique. C'est ça qui est intéressant, et je crois qu'on est tous d'accord de voir que on se définit contre. Avant d'ailleurs de parler des incroyants ou de parler des libres penseurs, il y a par exemple l'héritage protestant. Quand même, il serait dangereux, voyez, avec cette notion d'identité, d'assimiler la France uniquement à une nation catholique, même si le catholicisme a joué un très grand rôle, bien entendu, dans son histoire.
Monseigneur Simon, justement, par rapport à cet héritage.
Oui, mais c'est un héritage qui est paradoxal. Parce que pour pouvoir s'opposer, il faut avoir les outils pour s'opposer. Et j'aurais tendance à penser avec Hegel que le christianisme a donné à l'intérieur de lui-même les moyens de penser l'opposition entre le temporel et le spirituel. Et alors,
excusez-moi, ça me rappelle ce que m'a dit le cardinal Poupart une fois, me faisant exactement la même remarque, n'est-ce pas? Mais au fond, votre laïcité, c'est nous qui l'avons inventée, c'est la théorie de Marcel Gauchet, de quelques autres que nous connaissons. Alors je dis oui, je connais ça naturellement. C'est saint Thomas. Il me dit non, je remonte beaucoup plus haut. Alors je lui dis c'est Rendez à César, n'est-ce pas? J'écris un livre de ce titre, pas sur ce sujet d'ailleurs. Et il me dit non, on se remonte encore beaucoup plus haut. C'est le premier chapitre de la Genèse et qui assure la séparation, n'est-ce pas? Alors je dis évidemment, là vous me battez, personne ne peut remonter au-delà.
Daniel Hervé-Léger.
Oui, je souscris à l'idée que le mot identité, surtout dans cette espèce d'inflation qu'il connaît aujourd'hui, est bien ambigu. J'ajoute que l'identité de la France, avec un grand F, me paraît tout aussi ambigu. Et comme sociologue, la France, je ne connais pas. Je connais des Français. Je connais une collectivité nationale, je connais une entité de droit international, je connais des institutions. Mais la France, avec un grand F, cette espèce de personnification qui aurait une identité, alors là, ça me paraît extraordinairement mystérieux. Et par contre, alors on peut, bien entendu, comme historien, comme sociologue, s'intéresser à la dimension religieuse par définition plurielle de manière dont s'est constituée une culture française, une histoire française, un sens collectif d'être français. Non. Ça oui,
on ne peut pas limiter l'apport à l'apport judéo-chrétien.
Certainement non. L'apport musulman est considérable et il ne date pas des années récentes. La présence de l'islam en France est une réalité ancienne. La présence du judaïsme est attestée depuis extraordinairement longtemps. La contribution du judaïsme, du protestantisme à l'élaboration des idéaux de la laïcité, par exemple, peut être clairement démontrée. La contribution des conflits internes au catholicisme dans l'élaboration de notre conscience politique sont des choses tout à fait fondamentales. Bref, nous sommes devant un vaste chantier extraordinairement divers et pluriel devant lequel je me garderai bien moi de localiser quelque part une identité de la France qui me paraît plutôt redoutable.
Quels sont les derniers apports, les apports actuels, contemporains?
les apports contemporains. Je veux dire que les apports contemporains ne sont pas séparables précisément de,
voilà,
du caractère
ça, du caractère
vivant de notre passé, de notre présent. Nous sommes effectivement probablement plus que d'autres peuples, un peuple où, comme disait René Raymond au moment du conflit de 94, où le présent est extraordinairement encombré par le passé. Il est encombré, mais en même temps, c'est aussi une extraordinaire force, c'est-à-dire que c'est la dynamique de ces cultures toujours actuelles dans le présent. Mais nous avons connu, alors si l'on raisonne beaucoup plus récemment sur des apports, par exemple, de cultures religieuses nouvelles, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord au début des années 60 a produit l'introduction d'un type de culture juive qui n'était pas la culture juive présente massivement jusque-là, qui était une culture ashkénaze venue d'Europe centrale. L'arrivée aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années d'immigrés musulmans représente l'apport de nouveaux apports culturels. Tout ceci rejoint une présence de l'islam qui était déjà acquise mais qui se trouve perturbée par ces apports nouveaux et qui change. Nous sommes devant une culture vivante, c'est-à-dire qu'elle se transforme, mais à partir de son passé.
Mohamed Harkoun.
Oui, il est sans doute difficile de parler d'identité de la France, mais les Français, acteurs sociaux et historiques, se battent pour des identités justement très différenciées de la France. Puisque depuis la Révolution, il y a ce combat que nous n'arrivons pas à surmonter. La preuve, c'est la façon dont se déroule notre conversation dès qu'on aborde cette question. Le problème, donc, est de savoir si les Français peuvent trouver un moyen d'aller au-delà des positions qui les divisent sur une identité laïque ou une identité qui serait qualifiée de religieuse et qui référerait à avant la Révolution. Deux exemples, si vous permettez, pour illustrer la difficulté qu'ont les Français de gérer le fait religieux perçu dans ce pays qui s'appelle la France, très ancien. Nous allons célébrer le 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Marcelon, grand serviteur de l'État républicain, s'il en est, a eu une réponse qui fait réfléchir lorsque le pasteur Stuart lui a demandé comment se fait-il que vous nous avez invités, catholiques et protestants et juifs, et que vous n'avez pas invité les musulmans. Qu'a-t-il répondu? Que l'islam n'existait pas encore au temps de Clovis. Est-ce là une réponse d'un serviteur de l'État républicain? Je suis musulman et français. Je m'intéresse infiniment au problème de la légitimité, de ce qui fonde une légitimité politique. Et je m'intéresse à Clovis comme justement émergence historique d'une forme de la légitimité différente de celle qui existait auparavant. Et il est question, en célébrant ce centenaire, il est question d'intéresser les citoyens français à un débat qui est celui de l'histoire de la légitimité et non pas du christianisme et du baptême seulement. Encore que le baptême, évidemment, c'est le lieu de passage d'une légitimité à une autre. Un autre exemple, si vous permettez, très rapidement. Célébration du bicentenaire de la Révolution française. Edgar Faure, nommé premier président du comité d'organisation, a eu l'idée, il en avait beaucoup, comme vous le savez, de créer une commission pour étudier les rapports entre la Révolution française et les religions, au pluriel. Idée formidable. Je faisais partie du comité, le comité a été créé. Le premier geste de Jean-Noël Jeannonnet, lorsqu'il a remplacé Edgar Faure, a été de supprimer cette idée, purement et simplement. On n'en parle plus. Voilà deux exemples de Claude Nicollet, et qui illustrent une discussion de fond sur la gestion politique du fait religieux. Non pas en tant que fait religieux, vous voyez très bien, moi je pose le problème d'une anthropologie politique inséparable de l'anthropologie religieuse, lorsque je parle de la légitimité. Et je pourrais vous citer des exemples
absolument comparable au fait de Clovis du côté du califat, la naissance du califat, comme passage aussi d'une légitimation de type païen à une légitimation de type, je dirais, monothéiste, telle qu'elle a fonctionné dans l'espace religieux monothéiste. Voilà, des ouvertures formidables.
Alors, nous y vont dans un instant, Mohamed Harkoun, puisque nous nous posons dans quelques secondes la question des devoirs de la laïcité face justement à l'héritage religieux français. Monsieur Bergot, nous sommes ici dans une salle du Louvre, salle de peinture du temps de Louis XIII. Quels sont ici les tableaux, parmi ceux que nous avons sous les yeux, qui vous semblent être difficilement décryptables pour quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas, si je peux dire, la culture religieuse suffisante?
Eh bien, beaucoup d'entre eux. Nous sommes, en effet, comme vous l'avez dit, au temps de Louis XIII, et nous avons sous les yeux des chefs-d'œuvre peints par Vouet, par Philippe de Champagne, par Poussin, entre autres. Or, ce qui est parfaitement démontré dans cette salle, dont l'accrochage est absolument superbe, c'est que ces peintres, chacun de ces peintres, possède et a exprimé de façon égale deux veines, une veine profane et une veine sacrée. Au centre de la salle, la présentation au temple de Simon Vouet, tableau illustre commandé par le cardinal de Richelieu, dont vous voyez l'effigie à côté, et offert au maître, pour le maître-autel de l'église des Jésuites, ce tableau de la présentation au temple, comment peut-on le lire si on n'a pas la référence au texte à partir duquel il est construit? Car toute cette peinture, qu'elle soit profane ou sacrée d'ailleurs, part des textes et leur fait référence, les illustre quelquefois de façon tout à fait littérale. Voyez comme la Vierge est au sommet des emmarchements. Et ça n'est pas gratuit. Ça veut dire que, par rapport à toutes les autres créatures, la Vierge, dans la théologie, n'est-ce pas, dans la perspective chrétienne, dont étaient pénétrés ces peintres, la Vierge occupe le premier rang des créatures.
Qu'est-ce que, dans un tableau comme celui-là, un chrétien comprend vite et un analphabète, si je puis dire, de la culture religieuse ne voit pas? Quels sont les signes qu'il ne décode pas, qu'il ne peut pas décoder?
Écoutez, les signes qu'il ne peut pas décoder, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas? Ce qu'il peut en revanche décoder, c'est par le langage des formes qui est ouvert à tout le monde, qui est accessible à tout le monde, en dehors de toute conviction, de toute absence de conviction. C'est le langage des formes qui nous dit quoi? La rencontre de deux êtres, la remise d'un enfant dont on se dit qu'il est, comme tous les enfants, plein de promesses.
Nous abandonnons François Bergot, conservateur général du patrimoine, devant ce tableau du Louvre. Alors, pour que devant une œuvre d'art, un texte ou un monument du patrimoine, on puisse aussi bien saisir les éléments profanes que les éléments plus codés de la symbolique religieuse, que faut-il faire? Nous avons parlé tout à l'heure de l'héritage religieux de la France. Je voudrais maintenant vous demander ce que sont, à votre avis, les devoirs de la laïcité face à la transmission de cet héritage. Quels sont-ils d'abord? Et puis, sont-ils bien remplis sur ce sujet? Qui veut commencer? Dominique Pono.
Les devoirs de la laïcité. Je crois que premièrement, la laïcité, puis toute la société, je pense que c'est un premier devoir est celui de l'alphabétisation, déjà. De retrouver un certain nombre d'éléments textuels, par exemple, oui, c'est vrai, fondamentaux. Puis alors, encore une fois, je me sens, moi, dans une position un peu, peut-être, plus facile, parce que nous travaillons tout le temps avec des images. Il me semble que et de la poésie, il me semble que il est important que l'on tout en respectant c'est la règle d'or, bien sûr, les convictions de chacun,
on essaie de trouver une, je dirais, un lieu qui soit fait à la fois de distance et de sympathie. Parce que sans distance, on trahit forcément ce dont on parle, et sans sympathie, on se condamne à ne rien comprendre. Surtout dans les domaines, encore une fois, dont je parle, qui sont les domaines au sens large, poétiques et visuels ou musicaux. Voilà, distance et sympathie, c'est très difficile. J'ajouterai juste un mot. Il me semble que aujourd'hui, s'agissant de tous les éléments si variés, j'en conviens tout à fait, de l'héritage français, ce dont il est question, c'est de la formation des jeunes gens et des élèves, mais aussi des formateurs. Je crois qu'il y a, pour les raisons qu'indiquait tout à l'heure Mgr Thomas et le recteur Joutard, cette espèce de c'est pas une critique non plus, hein, c'est une constatation, cette espèce de grand effondrement des années 60, je pense qu'il y a une génération, grosso modo, entre 30 et 50 ans, qui n'a peut-être plus la respiration dont je parlais tout à l'heure par rapport à ça. Voilà.
Monseigneur Simon.
Et après l'alphabétisation, moi j'ajouterais un devoir de lucidité sur la situation où nous sommes. Je crois qu'il faut que nous sortions des slogans, des batailles de, je veux dire, de ma génération, parce que moi je m'y retrouve dans ces bagarres sur la laïcité, etc. Mais quand j'écoute la génération d'aujourd'hui, moi je me souviens dans une session avec des enseignants, où on parlait de l'histoire compliquée des relations de l'Église et de l'État depuis la Révolution française et puis la séparation des Églises et de l'État en 1905, etc. Et pendant la pause du café, il y a quatre jeunes qui ont que le pouvoir. Ils ont décidé de faire un putsch, de prendre le pouvoir dans la session en disant, écoutez, arrêtez de nous raconter vos histoires parce que nous n'y comprenons plus rien. Et je dis, il ne faut pas que nous prenions en otage cette génération pour régler nos comptes, éventuellement nos blessures, que je respecte autour de cette histoire compliquée, et acceptons de travailler avec distance et sympathie pour alphabétiser cette génération et pour lui donner le droit, si elle le veut, et ceux d'entre eux qui le voudront, non seulement d'accéder à une culture religieuse, mais à une initiation, ce qui est un autre registre, mais là qui relève de la liberté.
Alors travailler dans ces lieux pour une prise de distance, quel pourrait être ces lieux? L'école d'abord, d'autres lieux également.
Oui, Philippe Joutard. Je crois que je voudrais prolonger ce que Mgr Simon vient de dire. Je crois que dans la fameuse loi sur la laïcité, il y a en effet l'article 2, hein, que la République ne reconnaît une salaire aucun culte, mais l'article 1, que d'ailleurs a rappelé Claude Nicolet, c'est-à-dire assurer la liberté du culte. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des dispositions, y compris point de vue scolaire, qui offrent des plages où il doit y avoir un enseignement religieux.
On pourrait se demander si on n'est pas sorti déjà de la laïcité dans ce domaine.
Hein. Bon, ça c'est une question complexe, hein, mais qui ne vient pas, je crois, des laïcs. Hein, parfois, quand on a des difficultés là-dessus.
Encore que, faudrait.
Je crois que les parents et le tourisme jouent malheureusement un rôle assez important, vous le savez.
Bien sûr, mais il y a aussi la disposition d'une journée neutralisée pour ça qui n'existe plus. Enfin, ça c'est un grand débat qu'on ne va pas faire ici.
Voilà. Et alors, je crois que cette liberté a des conditions. Et parce que ça veut dire que vont coexister dans la même nation plusieurs religions, ou non-religions d'ailleurs. Hein, et qu'à partir de là, la meilleure manière de préparer les esprits à cette diversité, c'est de faire comprendre ce qui se passe autour d'eux. De faire comprendre, bien entendu, le catholicisme qui est devenu aussi une minorité, de faire comprendre le protestantisme, le judaïsme, l'islam, de faire comprendre aussi les affirmations, d'ailleurs je dis très clairement affirmées, d'un croyant. C'est-à-dire qu'en réalité, je crois qu'on a besoin, comme le disait Dominique Bonneau, de cet aspect distance, sympathie. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'école, dans le cadre des disciplines, ne créons pas une nouvelle discipline, vous voyez, j'anticipe, mais dans le cadre de l'histoire, dans le cadre du français, dans le cadre de la philosophie, et pourquoi pas d'autres matières, l'école a le devoir de montrer ces diversités et de ne pas les montrer uniquement au point de vue factuel, mais aussi de faire comprendre la signification. Et attention, faire comprendre la signification n'est pas forcément l'adhésion. Je crois qu'il faut beaucoup insister là-dessus.
Nous allons revenir sur l'enseignement religieux à l'école dans un instant, notamment à travers ce qui va se passer à la rentrée prochaine, puisqu'il y a des changements dans les établissements. Daniel Hervieux-Léger.
Oui, je pense effectivement que la première mission de la laïcité, c'est la lutte contre l'ignorance, et qu'en ce sens, la lutte contre l'ignorance religieuse est un devoir fondamental. J'ai une toute petite gêne avec une certaine façon d'aborder ce problème, disons, de l'alphabétisation, je mets des guillemets car je n'aime pas beaucoup la formule, qui laisserait supposer finalement que du même coup, le patrimoine artistique, le patrimoine, la richesse des œuvres d'art, de la littérature, etc., ne serait accessible qu'à une toute petite couche d'individus susceptibles d'accéder à une culture extraordinairement pointue. Je veux dire que à ce moment-là, enfin, si l'on oppose trop brutalement une sorte d'analphabétisme général, je pense plutôt au bobino que nous venons d'entendre et au commentaire sur l'accès au tableau, beaucoup plus qu'à ce que vous avez dit vous-même. Il me semble qu'il faut rappeler aussi que l'un des devoirs de la laïcité, c'est d'assurer une égalité des chances d'accès à ce savoir. Et ça me paraît être une mission tout aussi fondamentale que de rappeler le devoir de lutte contre l'ignorance. C'est-à-dire, quelles sont, pour moi, la question principale, c'est comment créer les conditions, les lieux, les moyens, tels que précisément la plus grande masse des individus, c'est-à-dire des jeunes, puissent accéder à cette connaissance et qu'on ne crée pas une sorte de dispositif à double vitesse qui risquerait de s'accroître entre des gens finalement abandonnés à une sorte d'ignorance fatale et de l'autre côté finalement une poignée de gens pouvant avoir accès à une culture savante leur ouvrant l'accès à la beauté du patrimoine artistique.
Dominique Bonneau, juste un exemple encore que je ne vais pas prendre. Dans le domaine strictement religieux, un tableau de Poussin, c'est une expérience que j'ai faite, un tableau de Poussin qui est Diogène arrivant au terme de sa vie, au fond. Diogène, au premier plan du tableau, devant un paysage parmi les plus sublimes de Poussin, dans lequel tout le monde peut entrer.
Il
n'y a pas d'analphabète. Il n'y a pas d'analphabète. Mais en même temps, cet homme-là, debout, devant un nouveau rivage, le rivage d'un fleuve ou d'une mer, qui est celle où nous sommes nous, les spectateurs, puisque c'est au premier plan du tableau, il voit un jeune homme en train de boire agenouillé à même l'eau. Et on s'aperçoit que Diogène, debout, qui le regarde, a laissé tomber sa coupe. Et si on dit, il n'y a pas besoin de réserver cela, aucunement à des gens très subtils et très savants, si on leur dit, mais voilà un homme qui a passé sa vie à tout abandonner et qui reçoit au terme de sa vie d'un jeune homme la leçon que la seule chose qu'il avait gardée, c'est-à-dire sa coupe, est elle-même inutile. Mais c'est merveilleux l'ouverture d'esprit que ça donne à tout le monde.
Le temps qui change ce matin sur France Culture est consacré à la question suivante. L'enseignement de la culture religieuse peut-il sauver la laïcité? Après le constat d'une France dont la jeunesse ne connaît plus vraiment les composantes religieuses de ses racines, nous allons maintenant nous demander comment on peut envisager de réintroduire cet enseignement de l'histoire des religions, de la culture religieuse, donc au sens large, à l'école et à l'université. Je vous propose d'écouter à nouveau Anne-Marie Pelletier, professeure en lettres à Paris 10, qui a créé récemment, et c'est une sorte d'expérience pilote, un cours de lecture littéraire de la Bible, ce texte auquel elle reconnaît de grandes vertus pédagogiques.
C'est un texte qui a ce grand avantage d'être également une clé au fond de toutes les représentations fondamentales sur lesquelles nous continuons à vivre aujourd'hui. Et donc, lire la Bible, c'est aussi être aux sources de notre conception du temps, de notre manière d'éprouver l'histoire, c'est être aux sources d'une anthropologie qui continue d'une façon ou d'une autre à structurer nos modes d'existence. Et l'enseignement que nous tentons de faire à Nanterre, précisément, nous met en contact de ces grandes questions de l'existence humaine. Donc, nous les voyons formulées dans les textes de la littérature d'une façon générale, mais plus que jamais dans ce texte biblique. Et c'est un texte qui non seulement formule des questions, mais apporte des réponses. Face auquel chacun reste bien entendu libre de réagir, mais la vertu pédagogique de ce texte consiste bien en ce que il met en forme ces questions et il risque des réponses. Et donc il provoque son lecteur, me semble-t-il, à se situer lui-même.
Dans le cadre de l'université, quel est le statut que vous donnez, vous, à la Bible ?
C'est évidemment un problème un petit peu subtil. Il n'est pas question de faire une lecture confessionnelle du texte biblique. Mon propos est essentiellement celui d'une lecture littéraire. Donc nous nous efforçons de lire le texte. Et commencer la lecture de quelque grand texte que ce soit est toujours une entreprise délicate. Donc c'est déjà le premier pari finalement que nous essayons de tenir, c'est de lire effectivement ce que ce texte dit, par-delà d'ailleurs tous les savoirs plus ou moins implicites, diffus que l'on peut avoir en tête.
Alors vous faites ce travail aujourd'hui avec la Bible, est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable de le faire demain ? Ou très rapidement avec d'autres textes importants, d'autres textes religieux, le Coran par exemple.
Probablement, je le souhaite tout à fait, tout en ressentant mon incompétence absolue sur un sujet comme celui-là. Je serais très curieuse moi-même de pouvoir accéder au Coran en y étant initiée en quelque sorte, je dirais de l'intérieur, par quelqu'un qui vit de la culture de l'islam.
On peut enseigner l'histoire des religions par les textes, nous venons de l'entendre, mais aussi de bien d'autres manières. Nous allons essayer d'envisager maintenant, avec vous tous, mais tout de suite, une réaction immédiate de Mohamed Darkoun à l'écoute d'Anne-Marie Pelletier.
Pas exactement. J'approuve absolument ce qu'elle fait, hein. J'y adhère tout à fait. Je considère que c'est très important. Mais le problème, c'est celui de l'élargissement, justement. Et parce que si on s'en tient à l'étude de la Bible, on reste, comme nous le sommes restés jusqu'à présent, dans le secteur de religions juxtaposées les unes aux autres et qui ne sont pas mises sur le même au même niveau d'interrogation critique et au même niveau de déplacement de la question religieuse au sens confessionnel vers l'entendement du fait religieux, la compréhension et l'interprétation du fait religieux qui s'engagerait résolument dans une étude comparée, réellement comparée, ce qui n'est pas pour demain, parce que justement, on ne s'y est pas engagé. C'est cela qui est le défi intellectuel nouveau. Et l'autre défi, pour essayer de sortir du couple infernal, confessionnel, laïque, infernal surtout en France, pour beaucoup de raisons, car il faut bien dire que c'est une compréhension de la laïcité depuis la Troisième République qui a engendré la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui vis-à-vis de ce que moi j'appelle le fait religieux, encore une fois, et non pas les religions particulières. Et parce que nous sommes dans la situation créée en particulier en France par une politique du religieux qui est une privatisation du religieux, une élimination totale du fait religieux, j'y insiste, pas des croyances tenues par chaque religion, du fait religieux de l'espace public, même de la recherche scientifique et de la réflexion sur le fait religieux. Si bien que même un homme de l'envergure de Paul Ricoeur se permet de déclarer dans une interview au Monde que l'islam n'est pas pertinent pour les recherches qu'il fait et la réflexion qu'il conduit depuis longtemps sur la Bible et la tradition judéo-chrétienne. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça relève d'une faiblesse intellectuelle. Et c'est cela que je ne cesse de dénoncer, et voilà pourquoi nous sommes confrontés aujourd'hui devant l'irruption du fait religieux à un niveau historique où ce fait religieux joue un rôle éminemment politique, bien qu'il s'habille des oripeaux de toutes sortes de références religieuses. Et nous sommes confrontés à cette violence
qui est partout qualifiée de religieuse, alors qu'elle est religieuse, certes, dans le vocabulaire utilisé par les acteurs, mais elle est fondamentalement politique, ce qui nous renvoie à la fameuse séparation que nous aurions à réaliser. Tout est bien clarifié, chacun travaille de son côté, les sphères sont bien claires, et la laïcité gère cela d'une manière très claire. La solidarité historique des peuples dans laquelle nous espérons entrer au XXIe siècle consiste, par exemple, pour un pays comme la France, à dire que en Afrique du Nord, tout près, la gestion du religieux est si catastrophique dans les 30 dernières années qu'il y a lieu d'intervenir pour porter secours à personne en danger.
Ah, précisément, quelle est la...
Voilà comment il faut essayer de réviser nos attitudes vis-à-vis, encore une fois, de l'approche du religieux à l'échelle historique, en tenant compte de cette page nouvelle d'histoire qui s'ouvre devant nous, d'une Union européenne d'une part, qui ouvre son espace et où les autres européennes ne traitent pas le religieux comme la laïcité française l'a traité, d'une part, et d'autre part, élargir cette solidarité de proche en proche. Historiquement, vous avez évoqué le bouddhisme, bien sûr, je n'ai rien contre, et dans ma logique, il faut le faire intervenir, mais il y a une solidarité historique qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, en ce qui concerne l'islam à l'intérieur de l'histoire même de l'Europe.
Bien, justement, Philippe Joutard, comment est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui à l'éducation nationale sur cette introduction du religieux ?
D'abord, il faut partir de la tradition française, hein, et je crois que, bon, Mouane Marcoun évoquait évidemment les autres pays européens, mais je ne pense pas que dans ce domaine-là, on peut faire des évolutions, on ne peut pas faire de révolution. Et d'ailleurs, on sait que plus largement dans les problèmes d'éducation, hein, les révolutions sont les meilleures manières d'éviter les évolutions. Donc, par conséquent, je crois que c'est beaucoup plus à partir et je crois que ça a été fait maintenant, de mettre dans les programmes quelques questions fortes sur l'islam, sur le début du christianisme, sur le monde hébreu, sur le temps des réformes, et non pas simplement la réforme protestante, mais la réforme catholique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, de le mettre dans un certain nombre de disciplines et d'amener, et ça, c'est pas simple, les disciplines à travailler ensemble. Pour bien, parce que le phénomène religieux est un phénomène global. Et donc, ce n'est pas une seule discipline qui peut l'aborder. L'histoire, évidemment, mais la littérature, les arts, la philosophie, y compris sur le grand sujet des laïcités. Ma commission avait proposé un sujet de réflexion dans le second degré, enfin même dans le lycée, laïcité, diversité spirituelle. Là, en revanche, on pourrait, à des élèves plus âgés, les faire réfléchir à la fois sur la spécificité française, sur la différence avec l'Europe. Et ensuite, en deuxième ou troisième lieu, je crois, préparer les professeurs, car ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils sentent la très grande difficulté, et notre débat le montre bien. Ils sentent que dans cela, c'est aussi les positions des uns et des autres. Il faut donc les rassurer.
Ils sont mal à l'aise avec la matière religieuse.
C'est très complexe. Et je crois qu'il faut leur apprendre à gérer cette complexité. Peut-être d'ailleurs en les rassurant, en leur montrant qu'il n'y a pas d'un côté l'islam ou le catholicisme. Je me permets de parler sous votre contrôle, Monseigneur. On sait très bien que même à l'intérieur du monde catholique, il y a des différences, que le discours de l'évêque n'est pas le discours du fidèle, que même dans les fidèles, il y a plusieurs discours. Et de faire comprendre que finalement, et rejoignant ce que vous dites sur l'individualisme, finalement en réalité, en traitant du phénomène religieux ou non religieux, on traite de l'individu, de la personnalité de chacun.
Oui, et comment donc introduire cette matière religieuse à travers les disciplines déjà existantes sans tomber dans le politique ou le confessionnel, Monseigneur Simon?
Je crois que c'est possible, avec un minimum de distance critique et d'honnêteté intellectuelle, de reconnaître les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'elles se passent aujourd'hui, sans avoir peur de reconnaître qu'un certain nombre de réalités sont conflictuelles. Mais on peut aussi dire tout simplement que là, les gens ne sont pas d'accord. Et c'est tout à fait passionnant. L'an dernier, moi, j'ai participé à une table ronde à l'IUFM de Caen sur la question « Faut-il enseigner la religion à l'école ?» Et ils avaient fait venir un représentant de l'islam, un représentant du judaïsme, et moi-même, comme prêtre catholique, avec l'idée suivante de nous mettre au banc d'essai, si je puis dire, en disant, si nous faisons un manuel un manuel d'histoire des religions à l'école, que pouvons-nous écrire dedans? Je prends simplement un exemple pour montrer la complexité de la situation. Le professeur de philosophie qui arbitrait notre débat nous dit, voilà, si j'écris dans mon manuel, Jésus était un prophète. Qu'en pensez-vous? Alors, la réaction du représentant du judaïsme était de dire, ben non, Jésus n'est pas un prophète d'Israël. Le représentant musulman dit,
ben, c'est la manière qu'il ne faut jamais utiliser. C'est intellectuellement faux.
Alors, et moi, j'ai le problème ainsi. Si je peux me permettre, j'étais le régional de l'étape en Normandie, et j'ai dit, ben ça dépend.
c'est mal parti, on veut.
Voilà, mais c'est pour dire, voilà, il y a la complexité. Mais je voudrais dire plus sérieusement qu'il ne faut pas tout attendre de l'école non plus. Et ce serait peut-être la déformation française de tout attendre de l'État par le biais de l'école, mais simplement permettre à la société civile et aux églises, aux représentants des confessions, d'avoir l'espace pour l'initiation. Si je puis me permettre une comparaison, croire que parce que tous les jeunes auront fait du mur d'escalade à l'école, ils sauront ce qu'est le Mont Blanc. C'est pas tout à fait la même chose. Et je dirais, qu'il y ait des murs d'escalade à l'école, c'est une bonne chose pour découvrir qu'on peut se faire plaisir là, mais autre chose de partir à la découverte du Mont Blanc. Et d'une certaine manière, c'est une analogie que je prendrais entre un savoir sur les religions qui surplombe et qui met à distance, mais il ne faudrait pas que ce savoir dispense de l'expérience vivante.
Est-ce que par ailleurs, il n'y a pas quelques risques à réintroduire le religieux à l'école?
Écoutez, si vous permettez, on a beaucoup opposé la laïcité à autre chose, je ne sais pas trop quoi, et bien que je sois d'accord avec ce qu'ont dit la plupart des intervenants. Alors, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que la laïcité n'est pas sortie toute armée de la tête de Jupiter. Oui, je fais une allusion au paganisme, là. Mais elle est évolutive, elle est transactionnelle. Dans sa plus pure tradition politique française, notre laïcité est transactionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'est toujours opposée, même de la part de ses grands fondateurs historiques, ses pères fondateurs, à une laïcité laïcarde et qui était beaucoup plus dure. Il faudrait vraiment trouver deux mots pour distinguer les deux attitudes. Elle est transactionnelle, la preuve c'est que en France, la liberté de l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement, est absolument garantie. Fait partie des principes infrangibles de la République. Il y a donc des enseignements privés, confessionnels, autant qu'ils le veulent, selon les degrés d'aide qu'ils demandent à l'État, etc. Et deuxièmement, cette laïcité, elle est pour les gens qui veulent la pratiquer, elle n'est pas simple. Elle demande des rectifications, des autocritiques permanentes. C'est ça que je veux dire. C'est un jour j'ai employé l'expression en disant que c'était un exercice spirituel. La laïcité, au meilleur sens du mot, à mon avis, c'est vrai. Bon, alors, deuxièmement, quand on parle de l'école, je voudrais qu'on rappelle une chose, nous parlons de l'école publique. Je supposais cette école, ce système éducatif dont nous parlons, c'est un système qui est qualifié de laïque dans nos textes juridiques, dans notre droit public, il ne peut pas être autre chose que laïque, il est en même temps public. Et les deux choses sont liées parce que ça doit nous inciter à nous demander ce que quelque chose qui se veut public, c'est-à-dire absolument commun à tous les membres du souverain que sont les citoyens français, tous sur pied d'égalité en principe, les uns par rapport aux autres, peuvent attendre ou doivent attendre de leur formation commune telle qu'elle est donnée dans l'école publique. Je veux dire, il ne faut pas demander à l'école de réparer des dégâts qui auraient été faits dans l'initiation au sens, l'initiation à la transcendance ou ses aspects, soit poétiques, soit philosophiques, du fait de phénomènes sociologiques qui font que, ici ou là, les religions ont perdu du terrain sur ce plan, en ont récupéré sur un autre. Ce n'est pas l'affaire du public, ce n'est pas l'affaire du système éducatif public. Parce que si c'était son affaire, on entrerait immédiatement, d'abord on mettrait en danger immédiatement les principes de liberté, d'égalité, ça a été démontré très très facilement, et d'autre part on entrerait dans toutes les difficultés que nous montrons à notre public, entre gens pourtant de même culture, de même monde et au fond d'accord sur les choses, nous avons des difficultés dans le dialogue, ou du moins nous avons des oppositions inévitables, parce que si on met le petit doigt dans l'idée de faire dans quelque chose qui est public une part, non pas à la culture générale qui intègre le religieux, tout le monde est d'accord là-dessus, mais à une culture qu'on qualifierait de spécifiquement religieuse, à ce moment-là, vous allez avoir les récriminations des uns, des autres, disent, moi, vous m'avez oublié, mais moi, je suis plus ancien que vous, je suis récent. Et puis, je dirais, et ceux qui, comme moi, mais je n'en fais aucune montre, je le garde à l'intérieur de moi-même, ne sont pas du tout religieux et pensent qu'il peut y avoir une morale absolument non religieuse, un sens absolument non religieux. Alors je vais demander à mon tour un temps de parole, un samedi matin ou un dimanche soir pour exposer. Non, c'est ridicule. Bien. Et on entrerait dans des difficultés sans nom. N'oublions pas que nous parlons d'une école publique.
Bien, justement, alors pour conclure, parce que le temps passe, Daniel Hervé-Léger.
Je voudrais renchérir sur ce qui vient d'être dit. Non seulement, je crois, il faut être très clair sur le fait que l'opération d'initiation croyante, qui consiste à agréger d'une manière ou d'une autre de futurs fidèles à une lignée croyante, et la formation culturelle à la dimension religieuse sont des choses complètement différentes, mais j'irais jusqu'à dire, et je crois que ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit aussi, ce ne sont pas deux paliers d'une opération unique, ce sont deux entreprises qui reposent sur des bases tout à fait différentes. L'initiation croyante suppose une culture religieuse. Cette culture religieuse, elle doit être donnée dans le cadre de cette initiation croyante. Elle en est le substrat. Par ailleurs, il y a un type de formation culturelle, et là, c'est plus comme sociologue que je parle, mais c'est à titre purement personnel, ou peut-être aussi comme ayant eu des responsabilités comme parent d'élève dans l'école publique. Il me paraît hors de question que ça puisse faire l'objet d'un enseignement séparé, auquel cas on retomberait inévitablement dans l'idée que ce serait une sorte de tronc commun général. Et par ailleurs, ce qui rajouterait un problème supplémentaire, qui serait celui du corps enseignant, qu'il faudrait sélectionner pour ça, et on imagine fort bien, rentrant par la fenêtre, par des formes détournées, toutes sortes de gens qui sont sortis par la porte. Donc il me paraît tout à fait important d'être très clair là-dessus, mais je pense qu'il ne s'agit pas de deux degrés dans une entreprise qui serait partagée par tous les hommes de bonne volonté dans cette société. Il s'agit de deux entreprises distinctes qui relèvent de responsabilités spécifiques, et plus on aura réaffirmé cette spécificité, plus, à mon avis, on saura régler et un problème très difficile qui est celui d'initiation croyante et un problème très difficile qui est celui de la formation culturelle ou religieuse.
Nous en resterons sur ce point qui fait l'unanimité autour de cette table en vous remerciant tous d'avoir participé à ce Temps qui change.
Le thème du Temps qui change, vendredi prochain 3 mai à 9h05 sur France Culture, sera Agriculture contre nature et sera proposé par Philippe Simoneau.